Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Mongeon. Cette semaine, on se retrouve toujours pour plein de news, plein d'actualités concernant le développement de jeux vidéo sur l'univers, voilà, tout ce qui est un peu les coulisses du jeu, comme le dit le titre du podcast. Donc vous allez pouvoir avoir pas mal d'informations. Donc comme d'habitude, on ne n'oublie pas les bonnes pratiques. Et je vous rappelle qu'il faut aller tout de suite là, aller noter le podcast, mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast sur lesquelles vous nous écoutez. Apple Podcast, Google Podcast, enfin toutes les plateformes de podcast que vous pouvez noter, n'hésitez pas à mettre une note et puis un petit commentaire, c'est toujours très appréciable et puis ça permet de mettre en avant un peu plus le podcast et de le faire remonter dans les classements. Donc je vous remercie par avance. Et bien, sans plus tarder, on va commencer les news de la semaine. Donc la news principale, donc je vous avais déjà un peu parlé de Godot 4 qui est en release candidate il y a quelques semaine de ça, et eh bien cette semaine la version 4 est enfin disponible, la version finale elle est disponible sur le site Godot, donc godotengine.org. Vous pouvez aller télécharger, il y a une petite vidéo de démonstration aussi de toutes les nouveautés. Donc en gros, pour résumer, il y a des grosses améliorations sur le moteur de rendu 3D, donc qui utilise notamment Vulkan, Direct 3D 12 et un nouveau OpenGL un peu Legacy. Donc allez voir un peu là, sur la vidéo, ils vous montreront un peu toutes les nouveautés. Et il y a aussi quelque chose d'assez bluffant sur alors je sais pas si sur les autres moteurs, hein, j'arrive pas à savoir si ça existe ou pas, mais en gros, si vous importez un modèle 3D dans Godot, donc Godot 4, donc maintenant dans l'outil d'import, dans la fenêtre d'import, vous pouvez cocher une case qui fait de l'auto-LOD, donc level of details. Donc ça permet notamment d'optimiser, d'accélérer l'affichage des éléments 3D sur votre scène. Donc si vous avez une scène avec beaucoup de polygones ou beaucoup de qui est assez gourmand parce que vous faites quelque chose d'assez réaliste, et que sur votre moteur, forcément, si vous l'affichez en gros l'objet, vous voulez le voir correctement et avec plein de détails, mais s'il est très très loin, très petit, vous en fichez un peu qu'il affiche énormément de détails. Donc là, avec cette façon d'importer, donc en cochant juste une case, Godot vous génère le LOD et du coup en automatique. Donc quand vous dézoomez une scène avec plein d'objets 3D avec qui sont assez gourmands, vous avez des performances bien meilleures que si vous n'aviez pas ce LOD automatique, où vous devriez le faire à la main, la partie LOD. Et bien sûr, il y a pas mal d'améliorations aussi sur les outils 2D, où je vois beaucoup de jeux quand même 2D qui sont faits avec Godot, hein, comme Tomb Keeper ou Brotetto, qui ont été faits avec Godot. Et il y a pas mal d'outils d'amélioration, de création de tiles set, de tiles map, et de pouvoir peindre des choses en isométrique. Et beaucoup de choses ont été rajoutées dans cette version 4 de Godot. Allez voir, ils ont déjà prévu forcément l'update 4.1 qui est une grosse release, peut-être qui arrivera à la fin d'année 2023 de Godot. Donc super moteur, plein de nouveaux projets, super cool, à surveiller, à essayer. Pour ma part, j'ai toujours pas fait de projet encore de Godot, mais ça ne saurait tarder, juste par curiosité, de tester quelque chose, de prototyper un petit jeu, peut-être pourquoi pas, faire une vidéo peut-être de ça. Donc voilà, il y a quelques idées, mais bon, on va prendre le temps de poser les choses et puis peut-être trouver des choses intéressantes à faire autour de ces super moteurs qui m'intriguent les uns plus que les autres. Donc il faudrait que je regarde ça de plus près. Donc news suivante, donc là c'est Humble Bundle qui a lancé un bundle dédié aux victimes de tremblements de terre en Turquie et en Syrie. Donc je sais pas si vous suivez un peu l'actualité, il y a eu un terrible tremblement de terre qui a fait beaucoup beaucoup de victimes en Turquie et en Syrie. Il y a eu il y a beaucoup de mobilisation, beaucoup de soutien, et du coup Humble Bundle, de leur côté, ont décidé d'apporter leur soutien en proposant un bundle assez complet, donc avec vraiment beaucoup beaucoup de jeux. Je ne saurais même pas vous dire le nombre de jeux qu'il y a. Je crois qu'il y en a, je sais pas combien, 72, 72 jeux, 72 titres. Il n'y a pas forcément que des jeux, je crois, dedans. Et vous pouvez aller récupérer tout ça pour vraiment moins de $30, donc ça fait 28 euros et quelques. Disponible jusqu'au 8 mars, et normalement, si je ne me trompe pas, c'est ce Tout l'argent récolté va directement à une association qui aide les victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Donc, si vous voulez voir un peu la liste des jeux, il y a XCOM 2, PayDay 2, Ticket to Ride, Farming Simulator 2017, Monaco. Enfin, il y a vraiment un peu pour tous les goûts, du triple A, de l'indé. Voilà. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, allez voir, allez soutenir, acheter le bundle. C'est pas très cher et ça fait une bonne action. Donc, voilà, c'est génial. Donc, je vous mettrai évidemment le lien en note de l'émission si vous êtes intéressé. News suivante, donc c'est une news concernant Unity, donc qui a fait un blog post sur du coup sur un système qui s'appelle les addressables. Donc pour ceux qui connaissent, qui ont déjà utilisé les addressables, ça va peut-être plus vous parler que voilà si bon, vous déjà utilisez Unity. Hein, donc forcément, si vous n'utilisez pas le moteur de jeu Unity, ça vous concerne pas directement. Donc en gros, les addressables, c'est un système de gestion de paquets. En gros, c'est un truc qui permet de charger des assets un peu à la volée quand le jeu est lancé. Et donc là, ils ont fait un article sur le site d'Unity pour donner un peu des astuces, pour donner des conseils sur comment justement utiliser les addressables de manière à ce que ce soit le plus facile et le plus pertinent en fonction de vos projets, de votre jeu. Donc il y a beaucoup de choses. C'est un article assez long, assez complet, donc c'est hyper intéressant. Donc c'est quelque chose que moi j'ai commencé à déjà regarder, mais j'ai jamais croisé vraiment des gens utiliser les addressables. En fait, c'est un peu l'évolution des addressables des asset bundles que Unity a utilisé pendant longtemps. Et les addressables, se basent sur les asset bundles, mais apportent beaucoup plus de choses avec une API, avec des choses qui peuvent être automatisées et qui sont beaucoup plus complets que ce que proposaient les asset bundles. Et puis surtout, voilà, en gros, les jeux vidéo, ce que disent bien, hein, c'est que les jeux vidéo de plus en plus gros, de plus en plus exigeants en ce moment. Ces derniers temps, voilà, tous les jeux vidéo modernes ont beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de choses à ajouter, beaucoup de contenu, surtout si on fait des jeux un peu game as a service, où les jeux sont live pendant des années, il y a des mises à jour, des contenus, etc. Donc c'est pas l'époque où on sortait la cartouche ou on gravait le CD et puis voilà, c'était terminé quoi. Donc au pire, il y a une extension qui sortait au bout d'un an ou deux. Maintenant, il y a pas mal de mises à jour, tout est mis à jour, même en day one, dès la sortie du jeu, on avait déjà des patchs, etc. Donc il faut pouvoir gérer ce genre de demandes et de besoins de l'industrie. Et donc les asset bundles répondaient déjà une partie à cette problématique, et là les addressables apportent voilà davantage de flexibilité et d'outils aux développeurs pour pouvoir gérer ça. Donc ils offrent pas mal de choses. Donc les addressables, ça a été quand même lancé en 2019, hein, et ça a déjà quand même été utilisé par pas mal de jeux. Et il y a une API, il y a une interface web pour gérer les packages, de pouvoir aussi, on peut utiliser par exemple le CDN d'Unity, hein, le Cloud Content Delivery, qui permet justement de stocker ces addressables et pouvoir les charger un peu à la volée avec une intégration très poussée avec le moteur de jeu Unity. Et il y a pas mal de choses qui peuvent simplifier le process, mais il y a des bonnes pratiques quand même à respecter pour être sûr de ne pas utiliser la mauvaise manière les addressables. Donc ce qu'ils recommandent quand même, c'est de planifier un peu comment les addressables vont être utilisés dans le jeu. Donc en fait, il faut prendre en compte la structure du jeu, les objectifs, les performances par rapport à la plateforme aussi que vous utilisez. Donc vous n'allez pas utiliser de la même manière les addressables si vous êtes sur du jeu PC ou Xbox ou PlayStation, ou si vous êtes sur un jeu Switch ou mobile quoi. Donc avec des performances un peu plus limitées, avec des chargements qui sont peut-être un peu plus problématiques, et aussi par rapport à la roadmap de votre projet. Donc de combien de mises à jour, de contenu, etc. vous prévoyez. Donc les addressables vont l'usage des addressables va être un peu différent entre ce que vous faites sur un jeu mobile ou sur un jeu PC. Donc il y a pas mal de critères. Donc l'article est très très complet, donc très intéressant à lire. Je vous recommande vivement, hein, si vous cherchez à développer vos jeux sur le long terme, à faire des à jour et tout. C'est sûr que si vous avez une ou deux updates, c'est peut-être pas des choses très intéressantes, mais si vous êtes sur un jeu mobile avec des assets à charger à la volée, avec, je sais pas, si vous mettez une boutique en ligne, des achats intégrés ou des choses comme ça, et que vous avez besoin de rapidement déployer des assets, des nouveaux contenus sans faire des updates par les stores iOS ou Google Play. Hein. On sait, vous savez sûrement, hein, si vous avez déjà fait ça, c'est que ça prend des fois des jours, voire des semaines à être validé. Donc là, avec des addressables et la mise à jour en dynamique des contenus, vous pouvez bypass ce genre de validation et être vraiment faire du live ops dynamique avec le moins de contraintes possible. Donc il y a peut-être juste une gymnastique et l'organisation de projets en amont à mettre en place avec ces addressables. Mais c'est des choses, voilà, je vous encourage vivement à regarder. Je vous mettrai voilà, le lien de l'article en question d'Unity en note de l'émission, et puis vous pouvez aller jeter un œil dessus. Petite news suivante après, c'est au sujet d'un collectif qui s'appelle le Sock Pop Collective. On m'en avait déjà parlé, c'est un copain qui avait parlé de ça il y a quelques temps, et puis là je suis tombé sur un article où il détaille un peu leur façon de faire. C'est en fait ces développeurs du Pays-Bas et ils sont plusieurs membres. Alors, je sais plus combien ils sont exactement, donc je crois qu'ils sont 4 développeurs de jeux vidéo qui sont basés aux Pays-Bas et ils font des jeux voilà, depuis 2017, et ils ont créé pas moins de 100 jeux depuis 2017. Et donc, s'ils font un petit article pour détailler leur process de création, pourquoi ils font ça, quels sont les avantages, et voilà, qu'est-ce qu'ils ont tiré comme enseignement de faire autant de jeux en si peu de temps. Donc, ils ont fait, voilà, comme je sais, une centaine de jeux depuis 2017, et ils ont une approche vraiment de la production où ils sont très détachés de ce qu'ils font. Et ce qui les intéresse, c'est surtout bah, de faire un jeu fun, quoi. Un jeu fun qui accroche les gens, les joueurs, la communauté, et pas être vraiment bloqué sur un jeu en disant oui, c'est mon bébé, c'est ma production, c'est mon jeu de l'année, de ma vie, et je veux pas laisser tomber, même s'il est pas fun, même s'il marche pas, même s'il n'y a pas de public. En fait, ils ont vraiment pris une autre approche, une autre philosophie pour leur développement de jeu, donc ils font ça en masse, et ils trouvent, dès qu'il y a un jeu avec un style de gameplay qui marche, et où il y a un hook, enfin où les gens accrochent, ils vont le développer un peu plus. Donc notamment, ils ont lancé un jeu qui a fait pas mal de parler de lui, donc Stacklands, qui est un jeu de cartes de construction de village, qui a l'air hyper fun à jouer comme ça sur les vidéos. Donc et plein d'autres jeux, donc comme Liama Villa, qui est un jeu d'aventure 3D avec des insectes. C'est une simulation de lama, pardon. Et puis les jeux d'insectes, c'est le jeu Kochiku's Dreams et un autre jeu avec un mode un peu sandbox. Heliopédia, donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de jeux différents avec beaucoup de genres différents. Les graphismes sont souvent pour la plupart des jeux assez basiques, assez simples, mais le jeu, le gameplay reste fun, et donc dès qu'ils ont le fun, ils vont développer un peu plus, faire des mises à jour, maintenir le jeu, proposer du contenu. Et que bah, certains projets, bah, du coup, forcément, sont killés, sont plus trop d'actualité, mais d'autres fonctionnent bien. Alors, comment ils sont. Leur business model est assez intéressant parce que c'est quelque chose aussi auquel j'ai pensé pour. Voilà, sur ce que je suis en train de monter, c'est de faire un Patreon sur la production des jeux. Donc, en gros, ils ont créé un Patreon avec pour Sock Pop Collective. Donc, les gens peuvent donner tous les mois ou toutes les. Je sais plus, je crois que c'est quelque chose de récurrent pour soutenir leur démarche créative, et ils ont accès à tout le catalogue de jeux en étant au Patreon et à chaque fois qu'un jeu sort, ils peuvent accéder au jeu, donner leur retour, être vraiment intégrés avec les développeurs dans le processus créatif. Donc c'est assez marrant. Donc c'est ce qu'ils disent. Ben voilà, du coup, ils n'auront jamais pu réussir à faire ça s'ils n'avaient pas ce Patreon qui les soutient dans leur démarche. Et voilà, allez voir ce Pop Collective. Donc c'est un petit article un peu. Bon, je veux pas dire que c'est un post-mortem, mais c'est plutôt un article voilà, de détails de leur vision stratégique de jeu sur leur approche du développement de leur studio, de leur process créatif. Donc je vous mettrai pareil hein, l'article en question en note de l'émission pour aller le lire aussi. Pour avoir plus de détails. News suivante. Donc voilà, on continue un petit peu la série un peu noire hein, des licenciements, des fermetures d'entreprises, etc. Là, c'est un peu différent parce que là, je vais parler de Playtika qui a simplement arrêté de lancer de nouveaux jeux sur le marché. Voilà, sur le marché des jeux mobiles. Hein, essentiellement, ils étaient beaucoup présents sur les jeux mobiles. C'était un peu des spécialistes dans les jeux de casino, les Slotomania, Caesar Slots, Bingo Splits, etc. Et du coup, là, bon, ils ont complètement arrêté. Alors la raison invoquée, hein, c'est que le marché est tellement bouleversé par tous les derniers changements qu'il y a eu sur les coûts d'acquisition, les tracking, bah, notamment par rapport aux changements à iOS, hein, la DFA. Et du coup, en fait, les CPI, donc les coûts d'acquisition, les coûts d'install pour un nouveau utilisateur sont tellement partis très haut qu'il est difficile d'avoir un retour sur investissement, le ROI, hein, ce qui qu'ils appellent, return on investment, qui soit capable d'absorber les coûts d'acquisition des nouveaux joueurs, des nouvelles installs. Donc ça paraît un peu compliqué comme ça, dit comme ça, mais si vous avez fait un peu des jeux mobiles, vous savez un peu que pour tenir un jeu mobile sur le long terme, il faut que les coûts d'acquisition soient en dessous de la rentabilité, que, bah, en tout cas, que les coûts, bah, si vous payez quelqu'un 1 euro, il faut qu'au bout de quelques temps, en théorie, entre 60 et 90 jours, il faut que cet 1 euro, vous puissiez les récupérer en moyenne. Sauf que ben, c'est très très difficile en ce moment sur le marché mobile, et notamment je pense sur le segment des jeux casinos, hein, où il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de gens qui viennent un peu sur les plates-bandes de luer sur l'acquisition, voilà, des publicités sur Facebook, etc., sur les trucs de casino, notamment je pense à des jeux en NFT, etc., qui doivent essayer de faire un peu la même chose. Du coup, pour Playtika, c'est un peu compliqué de s'en sortir, et donc ils ont décidé de stopper le lancement de nouveaux jeux. Ils avaient déjà d'ailleurs, hein, l'année dernière, licencié presque 1000 personnes, donc à travers les différents studios, les différents projets. Ils sont pas loin d'avoir 1000 personnes qui ont été remerciées l'année dernière, mais bizarrement, ils ont quand même fait une offre d'achat de Rovio, hein, en début d'année 2023, là, cette année. Rovio, hein, c'est les créateurs d'Angry Birds, donc bon, je sais pas si ça va aboutir ou pas, c'est assez étrange comme move, mais en tout cas, ils veulent essayer de se diversifier, de sortir un peu de ce qui a été, on va dire, du côté un peu. Jeu casino, pour essayer peut-être aller sur des choses un peu plus casual, mais casual mid-core, ou voilà. Rovio, c'est quand même un acteur historique des jeux mobiles. Angry Birds a été très très joué, connu à l'époque des jeux Flash, à l'époque, voilà, après sur mobile, sur pas mal de plateformes et tout. Donc ils ont même eu un film d'animation. C'est quand même un gros studio. Donc s'ils le rachètent, c'est peut-être pour s'ouvrir à d'autres choses, d'autres produits pour la suite pour Playtika. Et voilà pour cette petite news. Sinon, un truc assez rapide. Là, cette semaine, je suis tombé sur un article de gamefromscratch.com où il liste pas mal d'outils 3D gratuits. Donc si vous êtes à la recherche, donc évidemment le plus connu c'est Blender, qui est un outil gratuit sur plusieurs plateformes, qui tourne très bien sur Mac, Linux, Windows, sans aucun souci, mais il y en a tellement d'autres. J'ai découvert une liste assez impressionnante de logiciels 3D. Donc j'ai pu en essayer quelques-uns, donc je suis assez bluffé par tout le panel et de logiciels 3D gratuits qui est disponible pour en plus, vraiment, quand je dis gratuit, vous pouvez tout modéliser, faire, exporter sans rien payer. Et il y a même des choses assez bluffantes. Moi, j'avais, bon, y a certains que je connaissais déjà, un Blender, comme je disais, ou Mixamo, ou encore, comment il s'appelle, pour l'outil en voxel, Magic à voxel. Là, du coup, voilà, y a plein d'autres trucs. Donc, il y a comme, par exemple, dans le web, en fait, il y a des outils de modélisation 3D dans le navigateur qui sont assez bluffants, comme Blockbench. Blockbench, c'est un peu comme Magic Voxel, mais c'est vraiment spécialisé. Enfin, eux, ils se présentent comme un low poly, un éditeur 3D, enfin, un logiciel 3D pour le low poly dans un navigateur. Donc, vous avez juste besoin d'un navigateur. Donc, vous pouvez télécharger aussi l'app, hein, si vous voulez, mais qu'en gros, vous pouvez modéliser tout ça en 3D, et que vous avez même la possibilité de faire des skins, des personnages de Minecraft. C'est vraiment un style un peu Minecraft, hein. Donc si vous aimez bien ce style-là, vous pouvez aller voir sur blockbench.net. C'est un outil, voilà, que j'ai découvert un peu récemment, et peut-être que c'est vieux, mais j'ai jamais vu trop passer ça, et il y a vraiment des résultats très très bluffants avec cet outil, ce qui a été fait. Surtout qu'on se dit, voilà, c'est des choses que vous pouvez très bien utiliser après sur vos prods, sur vos jeux, ou pour, voilà, juste pour le fun, hein, pour votre portfolio, et ça a l'air assez sympa. Et puis je crois que c'est en plus, vous pouvez même collaborer. Alors, si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez inviter des gens dessus pour pouvoir faire ça à plusieurs. Donc, je suis pas totalement sûr de moi là-dessus, mais il faudrait que je regarde si c'est possible. Mais ce serait juste génial, quoi. Donc, voilà, vous pouvez juste utiliser ça pour après. Bien sûr, les exports marchent très bien sur Unity, Unreal Engine. Voilà, ce que vous avez envie, vous pouvez très bien le faire assez facilement. Ah non, c'est un autre outil que j'avais vu pour la collaboration. Je crois que c'est Spline. Spline aussi, assez bluffant, c'est sur le navigateur. C'est forme assez simple, mais très très cute, très coloré. Enfin, le site donne vraiment très envie. Et en fait, vous pouvez collaborer en temps réel un peu. C'est un peu comme si vous avez déjà utilisé Figma ou Miro. Vous pouvez voir plusieurs personnes modéliser en même temps les objets dessus. Et en temps réel dans le web, c'est juste bluffant. Pour le coup, il y a une version gratuite qui est pour une version personnelle gratuite où vous pouvez être deux à travailler dessus. Et ou sinon après il y a une version payante de Spline à 7 $ par mois. Donc allez faire un tour, je mettrai la liste de tous ces logiciels hein, sur le site de Game From Scratch. Donc voilà, il y a plein d'autres trucs, évidemment, que des choses qui sont un peu connues, d'autres un peu moins connues. Mais voilà, ça vaut le coup d'aller voir ces outils si vous êtes intéressé par faire de la modélisation 3D pour voilà pour vos jeux ou pour autre chose, pour découvrir. Sinon, comme d'habitude, hein, mais voilà, c'est tout pour cette semaine. Mais comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur Twitter @coulissesdujeu, coulisses au pluriel, hein, comme je le dis à chaque fois. Donc, je me répète, mais c'est important. Coulisses du jeu, @coulissesdujeu. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, à vous abonner à notre podcast, à nous noter, hein, comme je vous disais. Et sinon, voilà, on a passé l'Indie Game Lyon la semaine, le week-end passé, la semaine dernière. Super réception, super event. Merci à l'organisation, Bettina. Était voilà, vraiment génial ce salon. Il a vraiment pris en ampleur. C'est la 4e édition. Moi, j'ai fait la première, je crois. Et on voit la montée en puissance de cet événement qui a de plus en plus, qui a pris de plus en plus d'ampleur. Il y a pas mal de gens. Il y a pas, enfin, je m'attendais vraiment pas à autant de monde. On était submergé, des bonnes réceptions sur notre jeu. On a vraiment eu des bons retours. C'était vraiment très enrichissant, des bons contacts. Donc, hâte de voir, voilà, hâte de voir la prochaine édition de l'Indie Game Lyon l'année prochaine. Et puis, nous, on va sûrement se préparer pour participer à le prochain salon qui est la Geek Touch à Lyon, à Expo. Donc voilà, je vous en parlerai presque à tous les épisodes, je pense, mais c'est notre prochain target. Merci beaucoup et bonne semaine à tous. Bye!